L'association Autisme CRI 46 vous invite à une réunion ce samedi 18 mars à 13h45 au centre social de Figeac, place Vival, autour du thème des AESH, l'accompagnant des élèves en situation de handicap. Alors pourquoi parler des AESH aujourd'hui avec l'association Autisme CRI 46 ? J'ai donc invité Scarlett et Denis pour nous en parler. Bonjour.
Bonjour. Je pense que c'est un sujet qui devient récurrent depuis 2021, puisqu'on a de nos nombreuses familles qui nous ont contactées avec des difficultés, justement, sur les accompagnants des élèves en situation de handicap. Soit à la rentrée scolaire, les familles se retrouvent avec une notification qui est donnée par la maison départementale des personnes en situation de handicap, qui notifie bien que l'enfant ou l'adolescent ou le jeune adulte a besoin de cet accompagnant. Et en réalité, sur le terrain, eh bien, soit il est absent, soit il y a des problèmes d'aménagement de l'emploi du temps de cette personne qui ne correspond pas, je devrais dire, aux réels besoins notifiés. Par exemple, je donne un exemple tout bête, hein, par exemple, il est notifié 30 heures d'AESH individuel. Et en réalité, sur le terrain, avec le recrutement que l'Éducation nationale doit faire, puisque ces recrutements sont faits par l'intermédiaire d'un système qui est le pôle inclusif local, il recrute des personnes. Mais s'il n'arrive pas à recruter correctement et au bon moment ces personnes, eh bien, on se retrouve avec un aménagement, avec deux AESH qui vont faire sur les 30 heures, par exemple, une fois 10 heures, une 10 heures, l'autre encore 10 heures. Et puis, il va y avoir des trous parce qu'il y aura des périodes d'aménagement qui ne seront pas couvertes. Alors, c'est un peu compliqué. Donc, toutes ces demandes et ces difficultés nous ont fait sentir un besoin sur le territoire de parler de ce sujet, d'essayer de voir et d'entrevoir et d'apporter des témoignages. Quel est ce statut d'AESH? Quel est leur rôle? Comment sont-elles recrutées? Comment agissent-elles ou agissent-ils dans les domaines de l'éducation selon la loi 2005, puisqu'on n'est plus... On n'est plus sous le couvert de la loi de 1975 qui parlait d'intégration, mais celle de 2005, je rappelle, c'est la loi 2005 du 11 février 2005 qui, elle, parle bien de scolarisation et d'inclusion. C'est deux termes importants, différents, mais qu'il faut mettre au goût du jour aujourd'hui dans les mentalités, dans les esprits des gens, pour que ce soit mis en pratique et que ça corresponde aux réels besoins des personnes en situation de handicap sur le territoire.
Parce qu'aujourd'hui et depuis 2005, toute école doit accueillir des personnes en situation de handicap.
Oui.
C'est ce qu'on appelle l'inclusion.
C'est ce qu'on appelle l'inclusion. Alors, je rappelle que les AESH sont des agents contractuels de l'État, recrutés par contrat de droit public. Leur contrat d'une durée de 3 ans est renouvelable une fois, avec la possibilité d'obtenir à terme un contrat à durée indéterminée. Mais moi, je laisserai la réunion en débattre. Je lis simplement ce qui est dans les textes. Après, il faut voir si dans la réalité, sur le terrain, c'est vraiment concrétisé de cette manière.
Oui, parce que je pense qu'il va falloir que les... Justement, on va avoir des AESH qui vont être présentes, que ce soit homme ou femme. Et je pense que c'est à eux d'expliquer un petit peu leur métier et ce qu'ils font. Moi, je dirais simplement que, bon, bah, nous, on parle d'autisme. Ce qui est important quand même, c'est qu'ils aient une sensibilisation à l'autisme. Et je ne suis pas persuadé qu'ils l'ont toutes ou tous. Donc, mais leur dire aussi que notre association peut former et donc ils peuvent prendre contact avec nous. Bon, j'ai envie de leur dire surtout, c'est que samedi, ils n'hésitent pas à venir, hein, puis de toute façon, ils seront avec les parents et on n'est surtout pas contre eux, bien au contraire, parce que nos enfants ont besoin d'eux et parce que c'est important.
Et j'ajouterais que l'AESH, donc, c'est donc une aide humaine qui correspond à des besoins particuliers de la personne en situation de handicap, quel que soit son âge.
Et peu importe le handicap.
Voilà. Sa mission s'inscrit donc dans ce qu'on appelle un projet personnalisé de scolarisation qu'on appelle PPS. J'essaye d'expliquer les sigles, ce n'est pas toujours évident, on vit dans un monde de sigles et ce n'est pas facile pour tout le monde. Dans le cadre donc justement de la loi de 11 février 2005 qui précise les modalités de cette intervention sur 4 grands domaines. Donc l'accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, premier rôle de l'AESH, l'accompagnement et le soutien dans les apprentissages, l'accompagnement à la vie sociale et la participation à la réalisation du projet de scolarisation. Cette personne, quand elle est nommée sous la responsabilité pédagogique de l'enseignant, sous l'autorité fonctionnelle du directeur de l'école ou du chef d'établissement. Évidemment, si c'est une école primaire, un directeur, si c'est un collège, un principal. Et ce sont les pôles inclusifs d'accompagnement localisés, les PIAL, qui gèrent les AESH sur un secteur géographique donné. Ils sont chacun pilotés par un chef d'établissement et l'AESH va s'investir au profit de l'école, de l'élève accompagné afin de répondre à ses besoins de compensation. Parce qu'il s'agit bien d'apporter une compensation. On ne peut pas résoudre tous les problèmes de la personne accompagnée, mais on va compenser.
Je voulais simplement ajouter qu'il y en a donc des AESH dans le public, mais aussi dans le privé.
Oui, c'est important. C'est important ce que tu dis.
Scarlett, tu me disais tout à l'heure qu'il y avait plusieurs sortes d'AESH également.
Oui, il y a plusieurs sortes d'AESH. Il y a ce qu'on appelle les AESH mutualisés. Les AESH mutualisés, ce sont des AESH qui répondent aux besoins d'accompagnement des élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. En règle générale, elles ont un maximum de 10 à 12 heures attribuées par enfant et par semaine. En gros, si je peux résumer un petit peu les choses. Et c'est toujours la maison départementale du handicap, après l'examen du dossier par l'équipe pluridisciplinaire et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, CDAPH, qui détermine les activités principales de l'aide humaine sans préciser la quotité horaire nécessaire. En fait, il y a toute une liste qui est indiquée dans la notification et c'est sur cette liste précise que le travail de l'AESH va se baser parce que l'enseignant et le directeur de l'école va recevoir la notification. S'il y a quelque chose qui n'est pas indiqué, l'AESH ne va pas le faire.
C'est une fiche de poste. C'est comme une fiche
c'est
de
ça.
Poste.
C'est ça. Ça, c'est pour l'AESH mutualisé. Pour l'AESH individuel, elle accompagne un élève en situation de handicap dans le respect de la notification, comme je viens de l'expliquer. Mais l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'un élève qui requiert une attention plus soutenue et continue. Pourquoi ? Parce que les besoins sont plus importants. Et cette aide humaine individuelle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne va pas répondre aux besoins de l'enfant. Par exemple, il peut y avoir 15 heures, 20 heures, jusqu'à 30 heures d'AESH par semaine. Ce qui est différent parce que là, la personne va être en continu avec l'enfant. Alors ça peut être également sur le temps périscolaire du midi. Mais par contre, il ne faut pas maintenant... Il n'y a plus d'AESH spécifiquement sur le temps de garderie scolaire ou le garderie du soir. C'est de la responsabilité des collectivités.
Donc du maire.
Voilà. Donc c'est encore un autre combat parce que ça veut dire que les collectivités sont obligées de recruter du personnel adapté
qualifié.
Pour répondre à ses besoins. Et ce n'est pas toujours le cas, parce que ce n'est pas évident pour une collectivité de trouver du personnel formé pour répondre aux besoins de ces personnes. Parce que les besoins sont complètement différents d'un enfant à l'autre. Vous avez des cas de figure complètement différents entre un enfant qui, par exemple, va être non-verbal et une adolescente qui va être, dans les grandes études, en lycée. Eh bien, les besoins sont différents, les formations sont différentes, l'accompagnement est différent. Et il va falloir aussi que cela corresponde réellement aux besoins pour qu'il y ait une progression du parcours du jeune d'une façon qui soit cohérente.
Ce qui signifie que la formation de la personne AESH est totalement différente d'une AESH à une autre.
Oui. Par contre, il faut savoir que l'éducation nationale offre des formations à ces AESH. Bon, j'ai une personne qui devait être là aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu plus ces formations. Je sais qu'ils ont une formation, je crois, de 30 heures, d'après ce qu'elle m'a dit. Et ces formations vont répondre selon la personne qui est accompagnée. Parce que ça peut être une personne qui a des troubles dyslexiques, dysorthographiques. Donc, en ce cas-là, l'AESH va se former sur le thème précis. Si c'est un problème de trouble de développement de l'hyperactivité, c'est pareil, c'est pas la même chose. Donc, si c'est un trouble cognitif différent, c'est pareil. Et si c'est un trouble du spectre autistique, c'est spécifique. Et il faut suivre les recommandations des bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé. Et ça, c'est très important, tant pour la personne qui accompagne que pour la famille, que pour l'éducation nationale. En gros, nous, dans notre association, le fait de témoigner, d'apporter ces éléments-là, c'est de montrer qu'il faut respecter les lois, les textes qui sont mis en place dans le concret, dans la réalité. Et ce n'est pas souvent le cas. Et c'est pour ça qu'on a des remontées où des parents se retrouvent à la rentrée avec leur notification qui est bien actée et il n'y a pas d'AESH. On fait comment ?
Alors, on fait comment ? Je vous pose la question. On fait comment quand il manque un ou une AESH ?
Eh bien, ils restent chez eux.
Non, on ne peut pas dire qu'ils restent chez eux, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, si l'AESH n'est pas présente à la rentrée, les parents ont le droit de faire un courrier de mise en demeure à la direction académique des services de l'éducation nationale, à envoyer un recommandé avec accusé de réception.
C'est tout un programme.
Ils ont le droit de mettre une copie à notre association, puisque nous suivons toutes ces demandes. Également de mettre en copie à Autisme France, puisque nous sommes partenaires de cette association Autisme France au niveau national. Et aussi de faire un double au défenseur des droits, que l'on peut saisir directement. Et ne joindre que des copies des documents, surtout garder les originaux, et garder précieusement les originaux, ainsi qu'une copie de ce courrier. Et c'est très, très intéressant de suivre ça. Et nous, on essaye d'avoir des liens aussi avec la Maison départementale du handicap, puisque notre association a trois représentants sur le secteur de Martel, le secteur de Cahors et le secteur de Figeac, qui nous permettent justement de suivre les demandes des familles. Oh, c'est pas toujours des AESH, bon, ben là, c'est parce qu'on parle de ça aujourd'hui, mais ça nous permet de suivre les difficultés et justement d'alimenter les réflexions, de revenir sur les textes de loi, de pointer du doigt, parce que il y a des textes, par exemple, l'AESH, sa mission, c'est la circulaire 2019 du 5 juin 2019. Ben, faut la connaître, donc faut l'appliquer. La circulaire de rentrée 2019 de l'école inclusive, elle est pareille, elle est de 2019 aussi. Et les conditions de... Bien, ils sont actualisés, hein, les circulaires de rentrée. Hein. Oui. Chaque année, il y en a un, hein, je dis ça, mais c'est parce que j'ai ça sous les yeux. Mais... Et il y a aussi les conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap. Ça, c'est un décret du 27 juillet 2018 qui a modifié un décret antérieur. Denis pourrait vous parler de la fiche de poste, oui, des AESH qui est réglementaire au niveau de l'État. Hein. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est toujours dans le même cas, mais c'est plutôt spécifique au règlement.
Mmh. Scarlett en a parlé déjà un petit peu. Hein. Elle a parlé de participer aux sorties de classe ou régulières, mais ils ont aussi à accomplir des gestes techniques ne requérant pas une qualification médicale ou paramédicale particulière. Par exemple, aider dans les gestes d'hygiène. Ça, c'est important. Ainsi que dans les conditions de sécurité et de confort de l'élève. Ça aussi, c'est une question quand même importante quand même. Donc, collaborer au suivi des projets personnalisés de scolarisation, PPS, des élèves, participer aux équipes de suivi de scolarisation, ESS. Donc, il veut dire qu'il y a quand même des missions quand même importantes quand même aux ESH. C'est vrai que nous, on est toujours demandeurs des les gens qui pratiquent ce métier, parce que pour nous, c'est tellement important qu'ils soient là. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est important qu'ils viennent nous dire un petit peu leur rôle, parce qu'il y a des moments, les parents nous appellent en disant bah, « j'ai personne » et tout. Mais c'est important qu'ils nous précisent un petit peu tout leur rôle, leur statut. Bon, évidemment, on ne va pas dire qu'ils sont assez payés ou peu payés, puisque ce n'est pas notre rôle. Mais je pense que c'était aussi à eux de dire un petit peu leurs difficultés, que nous, on puisse remonter... Que les parents puissent remonter et sachent bien un petit peu les difficultés qu'eux, ils peuvent avoir, comme nous, on peut remonter les difficultés que nos enfants peuvent avoir. Et donc, la communication entre nous et eux est aussi importante.
Et moi, je pourrais ajouter qu'il est important de considérer que cet accompagnement éducatif avec une AESH est une compensation, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ça permet aussi... à la personne avec autisme, eh bien de s'ouvrir, de faire des progrès, justement dans son parcours, d'aller vers l'autre. Et ce n'est pas toujours évident, parce que des fois, on a l'impression qu'ils n'ont pas fait ces progrès. Mais en réalité, ils sont là. Même s'ils sont tout petits, un léger changement chez une personne avec ce trouble du spectre de l'autisme est une grande avancée. Et ce n'est pas toujours évident pour les familles de le voir, ou même pour la communauté éducative qui gravite autour de l'enfant, de percevoir ces choses-là. Mais pourtant, c'est très, très important parce qu'il évolue, même si c'est peu. Serait-ce que, par exemple, arriver à rester sur sa chaise tranquille pour savoir écouter, et si c'est 10 minutes de plus, mais c'est un progrès.
C'est pour ça que c'est important d'avoir leur témoignage et tout, et que quand les parents ont le témoignage justement des AESH, c'est important parce que là, ils s'aperçoivent un petit peu du travail qui sont faits, qu'il y a des moments, nous parents, qu'on ne voit peut-être pas de la même façon, parce qu'on se dit à la maison, bah, ça n'a pas tellement avancé, et par contre, à l'école, bah, il y a eu des petites choses qui ont été faites, donc ça va avancer. Ça va avancer peut-être vers aussi d'autres choses aussi sur la maison. Donc c'est toujours c'est important. Enfin, pour nous, il faut un travail important.
Alors il faut comprendre aussi que les AESH, qui sont des accompagnements au niveau scolaire, ne sont pas les seuls accompagnants, évidemment. Parce que pour bien réussir son parcours, eh bien, le jeune va avoir besoin de professionnels formés également. Il va avoir besoin d'orthophonistes, de psychologues, éventuellement de psychomotriciens ou d'ergothérapeutes. Parce que s'il a besoin, par exemple, d'un ordinateur pour bien appréhender les cours, parce que l'écriture, pour lui, c'est compliqué, eh bien, si l'ergothérapeute n'est pas mis en place avec un suivi, eh bien, l'AESH, il faut qu'elle s'adapte aussi à tout ça. Donc, c'est un ensemble de petites choses et de professionnels qui gravitent autour et qui ont besoin de travailler en réseau, mais ils ont besoin aussi d'être formés. Et moi, je vais insister sur l'information, la formation et la communication. C'est très important parce que si les enseignants et si les professionnels qui gravitent autour sont bien formés dans ces domaines, eh bien, ça va ne pouvoir que faire avancer les choses. Par contre, s'il y a un manque de communication, un manque d'information, et surtout rappeler que la famille est le premier interlocuteur, le premier éducateur de son enfant, cette famille doit être au courant de tout ce qui se passe et on ne doit pas lui cacher quelque chose et lui donner les bons documents. Parce que, en fait, c'est grâce à ce que la famille peut comprendre, parce que c'est elle qui va décider, ils sont partenaires du projet de vie de l'enfant. Hein. La famille doit être le premier interlocuteur. Il y a des équipes de suivi qui sont faites pour réévaluer le parcours, parce que l'AESH, elle est notifiée, elle est mutualisée, elle est individuelle, peu importe. Et au fur et à mesure, ces équipes de suivi vont venir en fin d'année scolaire ou dans le milieu d'année scolaire, eh bien revoir quelle a été l'évolution de l'enfant. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des points positifs, des points négatifs? Et c'est par l'intermédiaire d'un outil qu'on appelle le GEVASCO. Ça, c'est une grille de travail de l'éducation nationale qui est formalisée, où l'ensemble de la communauté éducative va mettre des appréciations, remplir des cases. Et c'est cette grille qui va être évaluée à la maison départementale du handicap et qui va être le support pour connaître si l'année suivante, il y a besoin, je ne sais pas, moi, il y a eu une AESH individuelle qui a été nommée pendant une année, il y a eu des progrès. Peut-être que l'année suivante, on va mettre une AESH mutualisée. Peut-être que pas. Peut-être qu'il faut continuer. Peut-être qu'il faut renouveler à l'identique ou pas. Et toutes ces questions sont mises en évidence sur la table pour savoir quel est le parcours qu'on suit. Est-ce que l'enfant va aller en classe Ulysse, dans une classe spécialisée d'inclusion, où il aura du temps scolaire en classe entière? Est-ce que c'est ça qui va lui correspondre? Est-ce que c'est ça qui va lui aller? On ne sait pas.
Tu voulais rajouter?
Oui, je voulais rajouter simplement une chose, c'est que quand les AESH sont absents et qu'ils ne sont pas remplacés, la rentrée se fait dans un chaos, pas possible. Ouais. C'est compliqué. Hein, quand les quotités sont notifiées par les maisons départementales du handicap et que sur le terrain, il n'y a rien qui correspond aux besoins, les familles vivent un calvaire. Ouais. Alors moi, je voulais quand même lancer un signal d'alarme parce que ce n'est pas normal qu'on notifie des choses et que sur le terrain, eh bien, les PIAL, là, le recrutement, ne puisse pas se faire correctement. On vit dans une situation compliquée où les familles se retrouvent en grande difficulté et c'est l'enfant qui subit tout ça. Parce que l'enfant, il peut perdre une année scolaire. Et perdre une année scolaire, c'est important pour un enfant. Où est l'égalité des chances? Moi, je dirais, où est l'égalité des chances? Alors, c'est vrai qu'ils sont en situation de handicap, mais on ne doit pas les laisser de côté. Ils doivent avoir la même chance que les autres, en dépit de leurs différences. Moi, je dirais ça, c'est très important. Et n'hésitez pas à rejoindre notre association, à la contacter. Nous avons un flyer, nous avons des numéros de téléphone, nous avons un site internet. Notre association est ouverte sur tout le territoire du Lot, à Martel, à Cahors, à Figeac. Que les familles n'aient pas peur de franchir la porte et de poser la question, même si elle leur semble bête. Nous, on est des bénévoles. Si on ne sait pas, on va dire on ne sait pas. Mais on essaiera de les accompagner au mieux.
Donc, rendez-vous ce samedi 18 mars à 13h45 au Centre social de Figeac, le 8 Place Vival, pour une réunion autour du rôle, des statuts, des témoignages, des questionnements, tout ce que vous voulez savoir sur les accompagnants des élèves en situation de handicap, les AESH.
On démarrera par un café ou un thé, hein, quand même. Parce que pour nous, l'accueil, c'est important.
Merci beaucoup à vous. À très bientôt.
Merci, à bientôt.
Au revoir.